Bonsoir à tout le monde, j'ai pas vu. Bien, nous allons reprendre notre texte biblique dans l'épître aux Philippiens. Alors, c'est quelques versets. Alors, c'est à partir du verset 7 et jusqu'au verset 11. Donc, chapitre 3, hein. Chapitre 3, versets 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qu'ils obtiennent par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà. Nous avons déjà vu trois aspects de ce qui est dit ici, et nous avons donc vu que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai vues comme une perte. C'est-à-dire que Paul était un juif très orthodoxe, même très, comment dire, fanatique, pour dire le mot exact, parce que on peut pas dire qu'autre chose qu'un c'était un fanatique. Il tuait des gens pour parce que il estimait qu'il avait raison et les autres avaient tort. Donc, mais ce juif fanatique est bien devenu un chrétien zélé, consacré à Dieu, et même il était un modèle. Hein. Et il dit toutes ces choses qui étaient pour moi des gains. Et qui n'étaient pas de petites choses, hein. Je peux vous dire que il n'y a rien de mal à être un juif, hébreu né d'hébreu, hein, de la tribu de Benjamin, etc. C'était un privilège, c'était quelque chose, mais c'était un privilège de naissance. Tout le monde ne pouvait pas l'être. C'est comment dire, Dieu qui avait décidé que cet homme, Paul, devait naître de la tribu de Benjamin, de la race d'Israël, et voilà, c'est comme ça. Donc il n'était responsable en rien de ce qui était arrivé. Mais toutes ces choses qui étaient pour lui des gains, qu'il pouvait regarder comme un avantage et un privilège au-dessus des autres, eh bien, il a regardé tout cela comme une perte. Et bon, je viendrai un peu plus. Et même, il dit, je regarde toutes choses comme une perte. Il recommence avec ce mot perte deux fois, il le dit. Je regarde toutes choses. C'est-à-dire qu'il y a une différence, il y a quelque chose de plus. Il était un bon juif, bien orthodoxe, bien consacré à sa religion, mais il était un être humain comme les autres, avec aussi des désirs comme les autres et des passions comme les autres, et vouloir des avantages même qui n'étaient pas seulement liés au peuple d'Israël, mais qui étaient liés à l'humanité, eh bien il a dit même, je regarde toute chose comme une perte. C'est pas qu'il est passé du judaïsme à quelque chose d'humain, de différent, mais il est passé à Christ. Et souvent, eh bien, on dit, moi j'étais ceci ou cela. Hein, on avait je me rappelle, j'ai un ami qui était communiste, des mauvaises fréquentations. J'ai un très très grand ami communiste, mais je ne vais pas parler de lui aujourd'hui. Ça, c'est un autre qui s'est converti et il est devenu pasteur. Et un jour, il m'a dit, tu te rends compte, j'ai blasphémé Christ. C'est la moindre des choses que je m'engage pour lui. Et que je cours des risques pour lui, hein. C'est la moindre des choses, parce que je l'ai blasphémé. J'étais un incrédule, j'ai travaillé contre Christ, volontairement. C'est ça, je vais raconter cette petite histoire, hein, vous intéresse peut-être. Mais un jour, j'avais besoin de cours de baptême. Alors je suis allé à la maison, la librairie évangélique, j'ai acheté quelque chose d'un certain Monsieur Gisquet. Voilà. Si vous cherchez sur Internet Gisquet, vous avez l'homme. Et alors, j'ai beaucoup profité de ses livres et de son petit fascicule, ce n'était pas un livre, c'est un fascicule, pour aider les personnes qui voulaient se faire baptiser. Et un jour, j'ai rencontré dans un camp un certain monsieur Gisquet. Alors un homme d'un certain âge. Et alors je lui ai dit, si vous n'êtes pas le monsieur Gisquet qui a écrit quelque chose sur le baptême, il a dit oui en effet. Et alors il m'a expliqué un petit peu, raconté son témoignage. Il m'a raconté comment lui communiste et un des dirigeants communistes, hein, il n'était pas régional, il était un des gros. Et alors, un jour, sa femme et lui étaient communistes. Et puis un jour, sa femme lui dit, tu sais, je suis allé à une réunion, et il s'est passé quelque chose dans ma vie, peut-être que tu ne seras pas content, mais Jésus-Christ est devenu mon sauveur. Alors, il n'a pas été content du tout. Alors, ça a été le commencement des disputes. Ils s'entendaient très bien dans le communisme, mais là, ils se sont disputés. Et alors, mais il aimait quand même sa femme, hein. Alors donc il a mis un petit peu le holà, il n'est pas allé jusqu'au bout. Et puis voilà, il a résisté. Et puis non, 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 je veux pas à ta réunion, je veux pas aller à ta réunion. Et puis finalement, bon, écoute, que ce soit la dernière fois, j'y vais une fois, mais c'est fini, hein. Il y est allé et il a fait comme sa femme, il s'est converti. Il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Lui, le communiste athée, complètement rebelle, complètement irreligieux, complètement militant pour, contre, eh bien, il est devenu chrétien. Et non seulement il est devenu chrétien, mais il est devenu pasteur. Et il a été un excellent pasteur qui a fait beaucoup de bien partout où il est passé. Et voilà. Et même après un certain âge, il pouvait encore prêcher et dire des choses, bon, qui allaient dans le bon sens. Et je rends grâce à Dieu pour le témoignage de cet homme, comment Jésus-Christ a triomphé dans sa vie. C'est, je regardais toute chose comme une perte, toute chose. Cet homme était, il avait tout à gagner. Je me rappelle de communistes qui avaient de belles maisons, de belles voitures, parce que, bon, je vous raconte pas tout ce qui, tous les dessous de ce qu'on peut faire dans la politique, hein. Surtout quand on est bien engagé, il suffit d'aller téléphoner chez le concessionnaire avec un petit mot de la part du groupe du parti, et voilà, on a la nouvelle voiture qui vient de sortir. Hein. C'est, je peux vous dire, c'est comme ça que les choses se passent. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais il a renoncé à toutes ces choses pour Christ. Et il était pauvre. C'est comme cela. Il y a des pertes. Mais ensuite, eh bien, il y a une connaissance de Jésus-Christ. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus-Christ. Et Paul pouvait dire aux Corinthiens, je le dis à votre honte, certains ne connaissent pas Dieu. Et moi, je pourrais dire la même chose pour beaucoup de chrétiens. Et je ne veux pas dire que c'est dans cette église, hein. Vous faites la leçon pour vous. Mais vous posez des questions pour vous. Mais est-ce que vous connaissez vraiment Jésus-Christ? Ou est-ce que vous avez pris la peine de le connaître et de le chercher? Et d'approfondir qui il est pour vous. Et je peux dire que beaucoup de personnes ne connaissent pas Jésus-Christ, ou le connaissent mal, et croient le connaître. C'est la pire des choses que de croire que l'on connaît quelque chose et on ne connaît pas. Vous savez comment on peut se perdre en voiture? Vous faites confiance à quelqu'un qui connaît bien le chemin. Ah, il connaît bien. Il n'a pas besoin de carte, rien du tout. On va prendre à droite, prendre à gauche. Et à droite et à gauche, et puis après vous êtes perdu. Et vous dites, mais c'est bien là que tu voulais m'amener? Non. Et je ne me souviens plus, il me semble que on n'a pas tourné au bon endroit. Voilà, c'est comme ça. On a croit connaître et on ne connaît pas. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas Jésus-Christ. Et le pire, c'est qu'ils croient le connaître. Et puis ensuite, il y a c'est de gagner Christ. Voilà, donc toutes ces choses, je vous en ai parlé les fois précédentes, mais c'est quelque chose d'extraordinaire que de voir combien Jésus-Christ est oublié, combien Jésus-Christ est mis de côté. C'est une catastrophe. On pourrait dire que c'est la critique du monde occidental. Parce que il y a des chrétiens qui meurent pour leur foi dans le monde. Il y a des chrétiens qui sont persécutés. Il y a des chrétiens qui mangent pas tous les jours parce qu'ils sont chrétiens. C'est qu'ils ne trouvent pas de travail parce qu'ils sont chrétiens. Il suffit de voir un petit peu ce petit journal, La Porte Ouverte. Vous regardez, vous verrez, c'est un déchirement. Il y a des millions de chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Je ne veux même pas citer de noms, mais de pays dans lesquels ils sont persécutés, vous les connaissez. Mais nous, nous vivons dans une certaine aisance, une certaine facilité. Et cette facilité fait que, eh bien, nous méprisons les choses spirituelles. Et je n'ai pas peur de vous dire que l'on méprise. Parce que quand on ne prend pas au sérieux certaines choses, eh bien on les méprise. Il faut appeler les choses par leur nom. On ne peut pas se jouer la comédie et se fermer les yeux et dire ben, tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Jésus-Christ est oublié dans nos milieux chrétiens. J'étais un jour dans une. Invité par un de mes amis qui est théologien, il m'a demandé si je voulais venir écouter le grand professeur de théologie à Paris. Bon, je ne vous dis pas le nom, parce qu'il est très connu et je ne voudrais pas rentrer dans trop de détails. Mais donc j'ai assisté à son cours, voilà. Alors, vous avez une Bible. Lui n'a pas de Bible. N'a pas de Bible. Donc il a un Nouveau Testament en grec et un Ancien Testament en hébreu. Donc il n'a pas de Bible en français, c'est ce que je voulais dire. Donc quand il ouvre sa Bible, il cite quelque chose, il prend le Nouveau Testament en grec et il cherche en grec et il lit directement, mais il lit directement, il traduit en même temps. Et quand c'est en hébreu, eh bien il ouvre sa Bible en hébreu et il lit et il traduit en même temps. Donc il y a un texte instantanément traduit. Il n'a jamais une traduction sous les yeux. Donc et sa Bible, son Ancien Testament est en ruine, hein, les pages sont un petit peu dans tous les sens, très usées. Le Nouveau Testament, c'est la même chose. Il n'a pas deux couvertures qui vont ensemble. Hein. Donc, mais cet homme-là a pu parler de théologie parce que bon, c'était sur le millénium, voilà, pour nier et être incrédule et enseigner l'incrédulité sur le millénium, sur le règne de Christ. Et sur les 1000 ans de règne de Christ sur la terre. Et il n'y croit pas, et il est contre, et il milite contre. Et il a travaillé à détruire la foi des personnes qui étaient là. Jésus-Christ n'a pas d'importance pour lui. Pourtant, il est capable de lire l'hébreu et le grec. Mais Jésus-Christ n'a pas d'importance pour lui. Il méprise, il peut parler légèrement et durement même de certaines choses. Au lieu d'avoir de la modestie et dire, bon, certains interprètent de cette manière-là, je vous donne leur interprétation, mais moi, je préfère l'autre interprétation. Mais être si cassant et si ruiné et dire des choses désobligeantes et blessantes pour ceux qui croient au millénium et qui croient que Christ va régner 1000 ans sur la terre, eh bien, je dis, ce n'est pas honnête, parce que nous n'avions pas le droit de réponse. Il était là en train de parler, de parler, de parler avec son grec et son hébreu et de citer à droite et à gauche toutes sortes de théologiens qui ont des phrases très très difficiles à comprendre et il faut avoir fait de la philosophie pour comprendre exactement tout ce qu'ils veulent dire. Il vous noie au bout de 5 minutes, hein. Il faut vraiment vraiment être très attentif et je peux vous dire c'est 3 heures de cours. Il n'y a pas une pause, hein. C'est des débits très très rapides. Et bon, ben, mais pour démolir, détruire Jésus-Christ. On en parle, mais comment dire, on a des conceptions très superficielles, très légères. Voilà. On discute, on fait de la philosophie sur Jésus-Christ. Et c'est le malheur de nos écoles bibliques françaises. Hein. C'est que Jésus-Christ, eh bien, on le démontre et on le démonte et on le prouve. C'est comme, vous savez, un moteur. Vous l'avez démonté, vous l'avez remonté. Ça m'est arrivé, hein, de démonter un moteur, de le remonter, de faire tourner, de voir comment le principe et tout cela. Voilà. Et ça marche. Il y a un quatre-temps. Hein, il faut. Je ne peux pas vous dire tout ce qui est, hein, ce qu'on fait, mais c'est très très intéressant. Mais on peut démonter Jésus-Christ exactement de la même manière. Mais Jésus-Christ, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur, c'est celui devant lequel nos genoux fléchissent. On ne prend pas son nom en vain. Quand il est dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, mais le nom de Jésus-Christ aussi, parce qu'il est Dieu. Et combien de personnes parlent, et voyez, Jésus, et Jésus, et Jésus, et Christ, et Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est tout genou fléchira, on se prosternera devant lui, il mérite l'adoration. Mais on peut parler de lui tellement légèrement, et ne pas se souvenir qu'il est Seigneur. Et que mon genou, mes genoux doivent fléchir dès maintenant, avant d'attendre ce jour où je le verrai face à face. Déjà, il faut que je fléchisse les genoux. Et je le prends pour moi et je le prends pour vous aussi. Hein. C'est dès à présent dans nos cœurs. Parfois, il y a des personnes qui ne peuvent pas fléchir le genou. Hein, il y a des rhumatismes. Mais si vous pouvez le faire, grâce à Dieu. Hein, mais dans votre cœur, eh bien, fléchissez le genou. Rendez grâce à Dieu, louez-le, recherchez Jésus-Christ, aimez-le plus que tout. C'est lui qui est le Seigneur. C'est malheureusement, nous sommes arrivés à une époque où les gens ne connaissent pas Jésus-Christ et ne cherchent pas à le connaître. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Mais vous êtes responsable pour ne pas faire la même chose. C'est pas parce que tout le monde le fait que vous êtes obligé de le faire. Je me rappelle de cet écrivain français. Il a parlé de son grand-père. Mon grand-père est parti à Panama pour travailler à la construction du canal de Panama. Et puis, tout le monde mourait de la fièvre jaune. Et mon grand-père a fait comme tout le monde. Voilà. Ça veut dire qu'il est mort de la fièvre jaune dans ce pays-là. Et il n'a jamais connu son grand-père qui avait 25 ans quand il est parti. Il est parti, il a laissé sa femme et qui était enceinte pour aller gagner sa vie. Hein. Il y avait un chantier là-bas à Panama, construire le canal de Panama. Eh bien, et voilà. Tout le monde mourait. Ben, lui, il a fait comme tout le monde. Je crois que beaucoup de chrétiens font comme tout le monde. Il y a une maladie dans ce siècle qui est de ne pas prendre au sérieux les choses sérieuses. Et je peux vous dire, nous sommes dans un monde, et si vous entendez certaines émissions, je ne regarde pas la télévision, mais il m'est arrivé, on dit, mais il faut de la dérision. Nous sommes des moqueurs. Nous sommes là pour tourner en ridicule. Nous sommes contre, et je me rappelle même un slogan, nous sommes contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. Voilà, donc vous avez la définition de beaucoup de choses là. Hein. Mais c'est une volonté de tourner en dérision. Et même, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « Mais tu te prends au sérieux, toi ?» Je ne me prends pas au sérieux. Mais il y a des choses que je prends au sérieux. Dieu m'a donné une vie. Et je suis responsable pour cette vie. Et je la prends au sérieux. Et je suis obligé de vivre cette vie d'une certaine manière. C'est cette vie que Dieu m'a donnée et qu'il a rachetée par le sang de Jésus-Christ, je la dois à Christ. Je ne peux pas la vivre dans la dérision. Je ne peux pas la vivre dans la débauche. Je ne peux pas la vivre dans l'amour de l'argent, du matérialisme, de ces choses-là. Parce que cette vie, elle m'est confiée. Dieu me l'a confiée. Elle n'est pas à moi. Elle est à Christ. C'était un jour extraordinaire pour moi dans ma vie, le jour où j'ai fait une découverte extraordinaire. C'est que j'étais esclave de Jésus-Christ. Je ne peux pas raconter toute l'histoire, hein, mais il y a eu un commencement où j'ai fait une recherche et j'ai voulu savoir. Mais un jour, dans une nuit, je me suis réveillé et je dis, mais tu es esclave de Jésus-Christ. Tu n'es plus à toi. Ces mains que tu as là, elles sont à Christ. Les yeux qui regardent là, c'est les yeux de Christ. Ton intelligence, ton cerveau, c'est l'intelligence et le cerveau de Christ. Ça appartient à Christ. Tu n'es pas à toi. Tu ne peux pas disposer de toi pour faire ce que tu veux. Tu es à Christ. Ah, ça m'a secoué les pieds à la tête. Hein. Si je n'étais pas bien réveillé, je me suis réveillé. Hein. Mais c'est comme ça, je me suis réveillé. Bon, je faisais travail, je cherchais. Hein. Quand même, la veille, je m'étais endormi en y pensant, en pensant à toutes ces choses, parce que je cherchais quelque chose. Je ne sais pas trop quoi, mais je le cherchais. Et c'est quand je me suis réveillé, c'était ça. Et donc j'ai relu Romains chapitre 6, et c'est le chapitre qui en parle. Hein. Donc je l'avais lu la veille, mais ça ne m'avait pas vraiment parlé. Mais ce matin-là, c'était un samedi matin. Voilà, c'est toute la journée, je suis passé et j'ai écrit beaucoup de choses, hein, des pages et des pages sur tout ce qui me venait à l'esprit, les versets bibliques et tout. J'ai fait une très très grosse étude là-dessus. Et le dimanche, je suis arrivé pour le culte et je marchais sur le trottoir. Et le pasteur de Limoges était sur le trottoir aussi. Donc je suis arrivé, on s'est croisés, on était face à face. Il m'a regardé et il m'a dit « Jeanlin, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Ah ben je lui dis « Qu'est-ce que tu penses qui m'est arrivé ?» Ah, il dit « Je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi, hein. Ça se voit. » Ah ben je dis « Oui, j'ai fait une petite expérience avec le Seigneur, mais j'ai découvert que j'étais esclave de Jésus-Christ, que je ne m'appartenais pas à moi-même. » Il a dit, mais c'est merveilleux, il faut que tu rendes témoignage de ça. Ce matin, il faut que tu rendes témoignage. Alors, je n'avais pas trop comment en parler, hein, parce qu'il y avait toute une démarche, hein, plusieurs semaines avant, mais je racontais comment le Seigneur Jésus avait été devenu mon Seigneur. Mais il était déjà mon Seigneur, mais je ne savais pas à quel point. Et je vous dis, il faut avancer, il faut chercher davantage, il ne faut pas rester au point où vous êtes. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est celui qui mérite l'adoration. Il mérite votre recherche. Il mérite votre affection. Il mérite de prendre tout dans votre vie. S'il vous dit d'aller dans une direction, allez dans cette direction. S'il vous dit d'aller dans une autre direction, allez dans cette direction. S'il vous dit de vous arrêter, arrêtez-vous. Vous n'êtes pas à vous. Vous êtes à Jésus-Christ. Et ces paroles que je prononce, mais si je les prononçais dans le monde, au milieu des inconvertis, ils diraient, mais tu es fou. Tu es libre. Libre. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Ça veut dire être esclave. Qu'est-ce que c'est la liberté de ce monde? C'est l'esclavage du péché. Ils sont libres de fumer. Ils sont libres de se droguer. Ils sont libres de se suicider par l'alcool, par la vitesse, par n'importe quoi. C'est ça, cette liberté? Moi, je préfère être esclave de Jésus-Christ. Parce qu'esclave de Jésus-Christ, ça veut dire que je suis libre vis-à-vis de la débauche, libre vis-à-vis de la drogue, libre vis-à-vis de la cigarette, libre vis-à-vis d'une vie qu'on ne contrôle pas et qui déçoit et qui trompe. Comme je peux vous dire, la liberté en Christ, c'est le thème de l'Épître aux Galates. Hein. Si vous voulez trouver la liberté en Christ, vous allez la trouver dans l'Épître aux Galates. Mais on est libre, mais on ne fait pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Voilà. Mais les gens sont libres par rapport à Christ et ils sont dans la débauche. Pas tous, mais presque tous. Et ils sont dans une autre débauche ou dans d'autres choses qui font qu'ils sont esclaves. Voilà. C'est tout. Et c'est finalement ce mot « liberté », c'est la plus grande tromperie que Satan ait pu prononcer sur l'être humain. Parce que personne n'est libre. Nous, ce qu'on appelle liberté, souvent, c'est le pire des esclavages. Il vaut mieux savoir de quoi on est esclave que d'être esclave et de ne pas savoir croire qu'on est libre et qu'on est véritablement esclave. Mais c'est en Christ, il y a la vraie liberté. Il y a les vrais choix. J'ai choisi Christ et j'ai choisi d'être en paix, d'avoir la joie, d'avoir la communion avec Dieu, d'avoir une espérance céleste. C'est cet esclavage de Jésus-Christ, mais c'est le plus merveilleux qui existe. Parce que, en fait, c'est ce qu'il y a de plus grand, qui dépasse tout ce qu'il y a au monde. Je me rappelle de cette histoire que j'avais comprise, parce que bon, je connais le français, mais je n'avais pas saisi la subtilité de la chose. C'était deux chrétiens chinois qui étaient dans un train, donc c'était avant la Chine communiste, hein, dans les années 30, et c'est raconté par un pasteur chinois. Donc le pasteur chinois racontait l'histoire de ces deux chrétiens qui étaient dans un wagon, voilà. Et il y avait deux hommes qui sont rentrés. Et à ce moment, ils ont dit, vous ne voudriez pas, on est quatre, on pourrait jouer aux cartes. Alors, ils ont mis une valise entre les deux banquettes, parce que c'est des compartiments où il y avait deux banquettes face à face. Hein. Donc, ils ont posé une valise et ils ont dit, on joue aux cartes. Ils ont sorti un jeu de cartes. Et les chrétiens ont dit, non, on ne joue pas aux cartes. Alors, comment vous ne jouez pas aux cartes? Ils ont dit, non, on ne peut pas. Comment vous ne pouvez pas? Parce que ces mains, ce n'est pas les nôtres. C'est les mains de Christ. On ne peut pas jouer aux cartes. Alors, ils ont rendu témoignage, bien sûr, que Jésus-Christ était leur sauveur. C'était pour eux l'occasion de rendre témoignage. Mais, en fait, sur le moment, bon, je vous dis, ce sont des Chinois, ils sont un peu spécialistes de ces chaussures un peu tordues. Bon, avec mon esprit occidental, j'avais vite jugé ces choses-là. Mais aujourd'hui, je respecte. Parce que je me dis, ces Chinois, eh bien, ils avaient compris. C'est peut-être pas pasteur. Mais ils avaient compris des vérités essentielles qu'il m'a fallu bien longtemps avant de comprendre. Et eux étaient de simples assistants, de personnes qui s'asseyaient et qui écoutaient des prédications. Ils n'étaient pas des prédicateurs. Et moi, je le suis. Et je ne savais pas ce qu'eux savaient. Je n'ai pas allé jusque-là. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est eux qui avaient raison. Mes mains ne sont pas mes mains. C'est les mains de Christ. Elles appartiennent à Christ. C'est comme cela que nous, chrétiens, eh bien, nous devons réagir. Christ doit prendre vraiment la première place. Il n'est pas une première place dans nos rêves, dans des choses que, bon, voilà, il a la première place. Eh bien, oui, évidemment, il a la première place. Évidemment, il est Dieu. Il ne peut pas avoir autrement que la première place puisqu'il est Dieu. Et moi, je ne suis qu'une créature humaine. Ces raisonnements-là, vous pouvez les faire, hein, mais ils sont sans issue. Parce que même s'il est Dieu, eh bien, il faut quand même que par un acte de décision, je dise « il est Dieu pour moi ». Ce n'est pas seulement de l'admettre comme Dieu, mais je le réalise comme Dieu dans ma vie. Il devient vraiment Dieu pour moi. Et je fléchis vraiment le genou devant lui. Et je me soumets vraiment à lui. Qu'est-ce que le péché d'Adam ? On en revient toujours au péché d'Adam. Mais Adam, son péché, c'est justement d'avoir pris de l'indépendance par rapport à Dieu. Dieu a dit quelque chose, et il a dit « Moi, je suis juge de ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas, de ce que je fais de la parole de Dieu ou ce que je ne fais pas de la parole de Dieu. » Donc, il a pris une décision contre la volonté de Dieu. Alors, nous, hein, on est toujours avec ce fruit qu'il a pris. Mais c'est beaucoup plus grave que cela, ça va beaucoup plus loin. Et nous, quand nous sommes devenus chrétiens, nous sommes passés de la famille d'Adam à la famille de Dieu. Et Christ est celui, le nouvel Adam, hein, c'est dans l'Épître aux Romains, hein, chapitre 5, vous avez le nouvel Adam. Et c'est Christ qui a été fidèle à toute la volonté de Dieu, à tout le plan de Dieu, et ça c'est dans l'Épître aux Hébreux. Si vous voyez toutes ces choses, le nouvel Adam a ouvert une nouvelle voie à l'humanité chrétienne. Quand nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus de la descendance de Christ, comme nous étions par la chair descendants d'Adam. Et descendants de la descendance de Christ, hein, de la postérité, comme vous tournerez la chose comme vous voudrez, mais par notre salut, nous sommes ses frères, nous sommes la même famille. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de différent. Ce péché d'Adam, d'indépendance et de rébellion contre Dieu, eh bien, c'est du passé. C'est notre ancienne nature, c'est ce que nous étions. Mais par un acte de volonté et de décision, nous avons dit « Seigneur Jésus, règne sur moi. Prends la première place dans ma vie. » Et ce jour-là, Jésus-Christ est devenu le Seigneur de notre vie. Il est devenu d'abord le Sauveur, mais il est devenu aussi, en même temps, le Seigneur de notre vie. Et à partir de ce moment-là, nous entrons dans une nouvelle vie. Nous n'avons plus la responsabilité ou l'autorisation ou la possibilité de vivre la vie d'Adam, dans la désobéissance d'Adam, et de poursuivre dans le chemin d'Adam, qui lui a été rebelle à Dieu, et nous voyons où cela a conduit l'humanité, où l'humanité est conduite en ce moment. Mais nous sommes dans une nouvelle humanité, nous sommes une nouvelle famille, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Christ est le chef de cette nouvelle humanité, comme Adam est le chef de l'ancienne humanité. Par cette nouvelle vie que nous avons reçue en Jésus-Christ, eh bien, nous appartenons à Christ. Nous sommes sa propriété. Nous sommes sa descendance, on pourrait dire. Hein. C'est pas tout à fait exact. Mais nous procédons de lui. C'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui est notre régénération, c'est lui qui est notre salut. Et c'est pour cela que nous lisons dans l'épître, première épître aux Corinthiens, il est dit qu'il a été fait pour nous, de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Christ a été fait tout cela pour nous. Nous sommes, toutes nos ressources, tout ce dont nous avons besoin, se trouve en Christ. On n'est pas en train de disserter sur Christ ou parler de faire de la théologie, mais il y a une vie pratique, une vie de, excusez-moi de vous le dire comme ça, une vie vivante. Hein, c'est pas trop français. Hein. ne copiez pas cela. J'imite Paul qui parfois a des licences de langage dans son grec, mais c'est à peu près ça. On est vraiment vivant. Je vis vraiment. Je ne vis plus une vie, je ne dois pas vivre la vie chrétienne à moitié. La vie chrétienne à moitié ne devrait même pas exister. On ne pourrait que l'imaginer comme quelque chose qui est improbable. Mais parce qu'il n'y a qu'une vraie vie avec Christ. C'est la vie où Christ prend vraiment la première place, où Christ est vraiment obéi, où il est vraiment cherché, où il est vraiment aimé, où on le connaît vraiment, et où on se soucie vraiment de lui, et où il y a une véritable affection dans nos cœurs pour Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie vie. Après l'autre, malheureusement, elle existe dans la plupart des chrétiens d'Occident. Voilà. C'est comme cela. On est matérialiste, On pense au dernier film, on pense à combien d'argent je vais gagner, on pense comment je vais pouvoir faire ceci, les vacances de la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Je ne m'intéresse pas à ça. Et chacun pense à ses petits trucs et tout. Voilà, c'est les relations qu'on peut avoir et les contacts. Voilà, ben, oh, mais je connais un tel. Ah, vous ne le connaissez pas? Mais je connais, oui. C'est. Ben oui, ah, tout le monde ne le connaît pas. Mais tout cela, ça n'a aucun sens. Connaître des gens du monde. Et je me rappelle d'un homme, on était dans une grande réunion avec beaucoup de pasteurs. Il y avait quelques noms de théologiens et de gens qui avaient écrit des livres, et donc il y avait des huiles là. Et alors, il y avait un chrétien qui courait de toutes ces huiles, il les cherchait, il essayait d'avoir une conversation, de discuter, prendre un numéro de téléphone, prendre un rendez-vous, et voilà, il était content, ça lui plaisait ça. Mais Jésus-Christ, il avait un rendez-vous avec Jésus-Christ. C'est pas intéressant ça. Préférez un rendez-vous avec un théologien ou avec quelqu'un qui a écrit le livre et tout ça. Et oui, quand vous avez écrit ce livre, je l'ai lu, il m'a. S'il a lu. C'est. Voilà. Mais on cherche des gloires par rapport à l'homme, mais Jésus-Christ, eh bien, on peut le mettre de côté. C'est. Combien passe-t-on de temps avec Jésus-Christ? Combien de temps est-ce qu'on prie au nom de Jésus-Christ dans notre journée? Est-ce que nous sommes continuellement accaparé par la pensée de Jésus-Christ, qu'il est le sauveur du monde. Est-ce qu'il y a un cantique dans notre cœur qui parle de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ, quand vous entendez parler de lui, il y a quelque chose qui. C'est Jésus-Christ. Vous savez, ce n'est pas quelque chose, un rêve que je vous décris là. C'est la réalité. Jésus-Christ peut remplir votre vie à un point que vous êtes si près de lui qu'il remplit vraiment tous les domaines de votre vie. Et vous êtes continuellement dans la louange et dans l'adoration. Il est vraiment votre Seigneur et votre Sauveur. Et chaque détail de votre vie, de votre conduite, sont dictés par la personne de Jésus-Christ. Et vous ne voudriez pas faire telle ou telle chose parce que vous savez que c'est sous le regard de Jésus-Christ, parce qu'il habite si près de vous. Il est dans une telle communion, telle présence avec vous. Et vous ne voudriez pas perdre cette communion. Et je peux vous dire qu'il y a une joie céleste, une joie qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer, parce que c'est la joie de Christ qui est en nous. Il y a de ces belles paroles de Néhémie, hein, ce beau que l'on reconnaît, hein, Néhémie 8, 18, la joie de l'Éternel sera votre force. C'est beau, hein? L'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est Christ. La joie de Christ sera votre force. Il remplit notre vie et il nous remplit de joie. C'est quelque chose de merveilleux qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. C'est quelque chose, vous savez, que l'on attend. Un jour, on va rencontrer Christ pour l'éternité. Et Paul faisait une joie, hein, nous l'avons vu dans cet épître aux Philippiens, hein. Je suis pressé des deux côtés, je le désire de m'en aller et être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans cette chair. Il regrettait quand même, hein. Il les aimait bien, ces Philippiens. Il les aimait beaucoup. Et il était prêt à faire le sacrifice de ne pas aller tout de suite voir Jésus-Christ. C'est comme cela, vous savez. Il y a une joie céleste qui remplit le cœur. Il y a une pensée de Christ. Il y a le désir de Christ, de marcher avec Christ, de vivre pour Christ, d'être à Christ, d'être centré entièrement sur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est notre vie. C'est lui qui est notre joie. C'est lui qui est notre promesse. C'est lui qui est toute notre ressource. C'est lui dont nous avons besoin à chaque instant. C'est lui qui a fait des promesses. C'est lui qui nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui prend notre main. C'est lui qui nous conduit. C'est sa voix, la voix du bon berger qui nous parle. C'est cette voix céleste qui nous dit: c'est le bon chemin. Suis-le. Ou ne prends pas ce chemin. Il est mauvais. C'est un chemin de perdition. C'est un chemin où tu perdras l'essentiel de ce que tu possèdes. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez, que de marcher avec Christ. Et c'est lui qui met les paroles dans votre bouche et qui vous dit: parle. va dans cette direction-là. Tu auras, je mettrai quelqu'un sur ton chemin. Je te permettrai, et tu y feras, et tu iras. C'est cette voix douce qu'il faut faire taire les voix du monde pour pouvoir écouter sa voix. Il y a tellement de choses qui parlent à tort et à travers, et qui parlent et qui ne disent pas que des bêtises, hein, mais elles parlent trop. Ce qui est faux, c'est entendre Christ vous parler, vous dire ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire. Cela dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Satan essayera toujours de vous convaincre que les choses les plus ridicules sont les choses les meilleures. Mais si vous avez perdu Christ, vous avez tout perdu. Je me rappelle d'un étudiant, quand j'étais à l'école biblique, quand le professeur demandait de faire un mémoire de 6 pages, il lui faisait 30. Alors évidemment, le professeur lui disait, ton mémoire, tu le gardes, tu le résumes. Il me faut 6 pages, il ne faut pas 30. Donc à chaque fois, il écrivait, il faisait beaucoup de choses. Et puis un jour, on avait un culte le matin, en milieu de matinée, et au moment du culte, il s'est levé et il pleurait. Il a dit, j'ai perdu Jésus-Christ et j'ai perdu ma Bible. Alors, bien sûr, on savait pas trop ce qu'il était en train de nous raconter, mais il n'avait plus de communion avec Christ. Et quand il lisait sa Bible, c'était un livre de théologie. Il n'entendait plus Christ lui parler, et il pleurait. Et je ne sais pas s'il l'a retrouvé, mais il avait perdu l'essentiel. Il gagnait de la connaissance, mais il avait perdu Christ. Oh, il n'avait pas perdu son salut, mais Christ. Cette joie céleste, cette paix en Christ, c'est de lire la Bible et de trouver des promesses, entendre Dieu parler dans sa parole, c'est ça qu'il avait perdu. Je peux vous dire, si vous avez perdu ou si vous n'avez jamais gagné, alors vous pouvez arrêter de faire ce que vous faites et chercher Christ. Ne vous donnez pas de repos, ne vous laissez pas passer une heure, une journée, sans que vous ayez retrouvé la paix avec Dieu, la paix avec Christ, la communion parfaite, la présence de Christ. Mettez-vous à genoux, confessez des péchés, remettez tout entre les mains de Dieu. S'il faut voir quelqu'un, s'il faut faire, allez-y, ne perdez pas de temps, parce que vous avez perdu l'essentiel. Tout le reste, vous pouvez gagner le monde entier. Si Christ n'est pas près de vous, vous avez perdu vraiment, vous avez perdu l'essentiel. C'est Christ qui est le chef de votre foi. C'est lui qui domine sur toute chose. C'est lui qui a le privilège de votre vie. C'est lui qui est le seigneur de votre vie. C'est lui qui a la possession de votre vie. Vous n'êtes pas à vous, vous êtes à Christ. Et ça, c'est le plus important. Je voudrais insister là-dessus. Parce que je ne veux pas vous tromper et vous laisser croire que si vous vivotez votre vie chrétienne, eh bien tout se passera bien finalement. Mais je termine là-dessus. Voilà. Vous êtes au tribunal de Christ. Vous avez négligé Christ toute votre vie. Vous avez préféré l'argent, les maisons, les voitures, hein, toutes ces choses. Bon, pas le péché, forcément, hein, mais des choses que tout le monde accepte et qui, voilà, c'est pas mal, mais c'est ni bien ni mal, mais c'est le problème, c'est d'y attacher son cœur. Hein. Alors, mais ces choses ont eu votre préférence dans votre vie. Et ces choses-là. Et vous rencontrez Christ. Il va lui dire, ah, je suis content de te rencontrer. Vous croyez qu'il va vous croire? Vous allez lui jouer quelle comédie? Vous allez verser des larmes? Il va dire, ah oui, oh là, qu'est-ce que j'aimais être dans ta présence? Qu'est-ce que j'aimais les réunions? Qu'est-ce que j'aimais être avec les frères et sœurs? Mais imaginez, vous avez vécu pour Christ. Vous avez marché toute votre vie avec Christ. Votre vie était consacrée à Jésus-Christ. Jésus-Christ prenait la première place. Quand vous allez le rencontrer, comment les choses vont se passer? Vous allez tomber à ses pieds, vous allez vous jeter dans ses bras, vous allez lui dire, oh Seigneur, comme j'ai aimé, comme j'ai voulu rencontrer, te rencontrer, toute ma vie j'ai attendu ce jour, toute ma vie, et vous allez le dire avec vérité. C'est pour cela que le Seigneur Jésus va dire à certains, éloigne-toi de moi, toi qui as préféré toutes ces choses de ce monde. Et aux autres, il va dire, approchez-vous, parce que ils n'ont pas aimé pendant toute leur vie être dans la présence de Christ. Et brusquement, voilà, on est dans le ciel, maintenant on va voir la présence de Christ. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des récompenses aussi. Et ceux qui ont aimé Christ, qui ont choisi Christ, qui ont voulu vivre pour Christ, eh bien, ils auront la proximité de Jésus-Christ. Et les autres, eh bien, ils seront éloignés de Christ. et avec la tristesse de ne pas être près de Christ. Et je peux vous dire, bon, après ça demande plus de théologie, hein. Je ne vais pas faire de la théologie comme je vous ai dit, mais il y a des choix que l'on fait maintenant, et on ne les fera pas dans l'éternité. On ne les fera pas brusquement quand on sera dans la présence de Christ. C'est maintenant que les choix se font. Et vous avez peut-être peu de temps. Vous avez, mais le temps que vous avez, c'est le temps présent. C'est maintenant. Vous n'avez pas les 10 prochaines années. Toutes ces 10 prochaines années, elles ne sont pas à vous. Ce qui est à vous, c'est cet instant. C'est maintenant. C'est maintenant que les décisions se prennent. C'est maintenant que l'on courbe la tête et on dit « Seigneur, prends toute ma vie. Dirige toute ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je renonce à tout. Je veux que Christ soit ma vie, qu'il soit ma joie, qu'il soit tout ce dont j'ai besoin. » C'est pour cela que peut-être vous allez dire il a un peu trop insisté. Mais je préfère insister maintenant et vous dire qu'il y a des choix que vous devez faire. Et vous ne pouvez pas être libre, vraiment libre, tant que vous ne les avez pas faits. Ne vous illusionnez pas, ne vous trompez pas vous-même avec de faux raisonnements, avec toutes sortes d'idées que vous pouvez avoir, que Satan viendrait vous suggérer et tout ça. Si vous n'avez pas, Christ n'est pas le premier dans votre vie, et bien il y a un problème dans votre vie. Voilà, ça c'est clair. C'est Jésus-Christ qui doit prendre la première place. Qu'est-ce qui prend la première place dans votre vie? Je vais vous dire comment on le sait. Vous fermez vos yeux et vous dites « Seigneur Jésus, je te donne tout. Prends la première place dans ma vie. » Et si vous lui dites ça, instantanément, la chose qui prend la première place va venir. Et cette chose-là, c'est là que vous avez à combattre. Je vais vous dire, moi ce qui prenait ma première place, c'est mes livres. Combien de fois? Oh, le Seigneur est bon quand même avec moi, il est miséricordieux. Parce qu'il m'a quand même accepté. Il a quand même pris la première place dans ma vie. Mais les livres, un jour, je les ai perdus. C'est comme ça. Je ne les ai plus avec moi. Ils sont un peu partout. Voilà. Je les ai à 3 endroits différents, peut-être même à 4. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je les ai perdus. C'est comme ça. C'est Christ qui prend la première place, il faut qu'il prenne la première place. Mais à un moment ou à un autre, il prend ce qui est à lui, hein. Ça, c'est, ne vous en faites pas. Mais faites cette démarche, et je vous le recommande. Satan essayera de vous tromper, de vous séduire. Mais c'est un séducteur, et c'est un trompeur, et vous le connaissez. Et ne lui donnez pas raison dans votre vie. Il vaut mieux perdre, selon ce monde, et gagner les choses spirituelles, que perdre les choses spirituelles et gagner les choses de ce monde. C'est un faux calcul, c'est un mensonge, c'est quelque chose que vous devez repousser avec toute votre vigueur. C'est que tout ce qui vous éloigne de Christ, c'est mauvais. Après, d'autres le font, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais cette chose-là vous éloigne de Christ, elle est mauvaise. Mettez-la de côté instantanément, elle ne mérite même plus votre attention. Tout ce qui vous rapproche de Christ, c'est bon. Et vous, si vous faites ce tri dans votre vie, eh bien vous allez voir que vous en savez beaucoup plus sur la volonté de Dieu que la plupart des chrétiens. Parce que vous saurez au moins diriger votre vie. Parce que il y a des choses, c'est un chemin de perdition. C'est un chemin où on s'égare, où on est trompé, où on est séduit. Parce que c'est la voie du diable. C'est l'ennemi qui vous a conduit dans ce chemin. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Thank you.